matin, Culture Média.
9h-11h,
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver, si vous nous rejoignez seulement, et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre nos invités, les musiciens et chanteurs Yvan Cassar et Louis Chédid. On parle de ce nouvel album en noirs et blanches, duo inédit des grands standards de Chédid, mais en version piano-voix. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Philippe Vandel.
Laurent Mariotte, je vous salue également, bonjour.
Mes respects Philippe Vandel.
Et mes respects aussi à Jean-Luc Lemoine, bonjour.
Monsieur Philippe Vandel.
Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, c'est une rubrique spécial, m'avez-vous dit, je me méfie.
Oui Philippe, c'est Black Friday, ouais. Émilie vient de le dire. Donc c'est le grand déstockage aujourd'hui. Je ne vous garantis pas de la marchandise de première qualité, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est une vanne achetée, une vanne offerte. Et on va faire un petit tour de l'actualité de la semaine.
Alors je crois que vous avez voulu commencer par un sondage.
Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on a des sondages pour tout. Donc là, dans la série des sondages qui servent à rien, on a demandé aux Français s'ils étaient heureux. Je dis que ça sert à rien parce que si t'es au fond du trou et que t'apprends que 90% des Français sont heureux, je suis pas sûr que ça te fasse du bien. Au contraire. Mais bon, ils l'ont fait, donc écoutons. En plus, vous allez voir, ils ont trouvé la bonne voie pour annoncer les résultats.
Selon notre sondage Elab, 68% de la population se sent heureuse. Un chiffre élevé.
Ah ouais, bah cache ta joie. Hein. Alors j'avoue que j'ai été surpris par le chiffre parce qu'on a quand même bien dégusté ces derniers mois. Donc pour comprendre, j'ai écouté le président de l'Institut Elab.
Quand on demande aux Français quels sont les mots qui caractérisent le plus leur état d'esprit, lassitude, nostalgie, tristesse, peur et colère.
Voilà, et tout ça, ça donne 68% de gens heureux. Je pense que les 68%, c'est surtout des gens qui travaillent dans les instituts de sondage. Parce qu'ils sont contents qu'on les embauche encore pour ça.
Pour la suite, Jean-Luc, vous nous emmenez dans le Puy-de-Dôme, je crois.
Oui, oui, parce que dans Estelle Midi, on a appris que dans le village de Saint-Jean-d'Ors, la mairie a fait voter à ses administrés, a soumis au vote des administrés, les noms de rues de village. Et c'était une idée géniale.
Dans un instant, ce village qui décide de rebaptiser toutes ses rues avec des noms de stars, Johnny Hallyday, Bob Marley ou encore Freddie Mercury.
Moi, je vais habiter dans l'impasse Philippe Vandel. C'est une idée géniale parce que si tu te fais arrêter avec un pétard rue Bob Marley, hein, qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien. Tu dis que c'est un hommage?
Évidemment, il y a d'autres artistes qui ont été retenus.
Bien sûr, ils ont fait un collège Jean-Luc Lahaye pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour la jeunesse. Non, je plaisante. Mais il y a quand même d'autres artistes qui ont obtenu des suffrages.
Il y a aussi dans la liste Zazie, Vianney ou Stromae. Jules, en revanche, n'y figurera pas malgré l'insistance de plusieurs jeunes habitants de la commune.
Et ça par contre c'est dommage, parce que j'en ai parlé tout à l'heure avec lui, Nicolas Caro était prêt à investir à Saint-Jean-d'Ors, mais à condition d'être avenue Joule, et à côté de la piscine municipale Loana, on est d'accord. Il a ses petites exigences Nicolas. Laurent Mariotte, lui, c'est plutôt la bibliothèque Jérôme Star qui l'intéressait. Après, Estelle Denis, elle prenait un témoin au téléphone, et là je voulais laisser, mais vraiment juste pour le plaisir de ce bel échange.
Bruno, vous êtes avec nous?
On va le rappeler.
Bruno, juste je vous coupe, ça a coupé, hein. Donc en fait il faut que vous répétiez votre phrase, allez-y.
Mon âge, j'ai 56 ans.
Non mais vous devriez prendre des auditeurs dans Culture Média, Philippe, on n'est jamais déçus. Surtout que j'imagine que nos auditeurs, vous avez leurs coordonnées, ils doivent être 52, on pourrait les appeler nous-mêmes.
Mais ils sont beaucoup plus saligots. Tu sais quoi, je vais te pousser du pont Jean-Luc Lemoine. Dans l'actu toujours, un des gros sujets de la semaine, c'était la corrida.
Ouais, et ça a fait pas mal réagir. On a entendu les pros, les contres, mais l'approche la plus surprenante, je l'ai trouvée sur CNews, avec cette vétérinaire pro-corrida qui a réussi à faire un crossover entre deux questions qui ont animé les débats ces dernières semaines.
La corrida n'est pas de la torture. La corrida, c'est un protocole de fin de vie. C'est un protocole de fin de vie. Ce protocole suscite de l'émotion. C'est normal. Tous les protocoles de fin de vie suscitent de l'émotion. L'euthanasie.
Il y a tellement de bon sens dans ce qu'elle vient de dire. Est-ce que c'est pas ça la solution pour les gens qui veulent en finir? On devrait envoyer nos petits vieux dans les arènes pour se battre avec des toreros. Mais c'est vrai, tout le monde serait gagnant. Plus de taureaux tués, plus de toreros blessés. Parce que c'est compliqué d'encorner quelqu'un avec un déambulateur. Et pour les familles, ça serait quand même un moyen un peu plus festif de dire un dernier au revoir à mamie. Voilà, normalement vous auriez dû dire olé.
Olé.
Voilà. Ouais. C'est la preuve qu'on n'est pas un pays de tradition de corrida. Et pour finir, je voudrais vous passer une vidéo qui a beaucoup tourné hier. La réaction d'Ousmane Dembélé en conférence de presse quand il a appris que le Japon avait battu l'Allemagne.
L'Allemagne là, vient de perdre face au Japon.
Hein?
On a vu, oui.
Ah oui,
oui.
Ouais.
Alors, ça, beaucoup de gens l'ont vu. Mais ici, en exclusivité, nous avons la réaction d'Ousmane Dembélé quand dans cette même conférence de presse, on lui a appris quelque chose d'encore plus choquant.
Et vous savez que dans Culture Média, on travaille aussi les jours fériés?
Oui.
Vous voyez Philippe, ça choque tout le monde.
Merci Jean-Luc Lemoine, à lundi, on vous retrouve aujourd'hui, vous travaillez aussi aujourd'hui le vendredi, historiquement vôtre de 16h à 10h avec Stéphane Bern, et vous serez aussi lundi dans l'émission de Bern et dans Culture Média.
Et chez vous ce week-end, je fais un peu de ménage.
Et on s'en réjouit sur Europe 1. Nicolas Mariotte, l'indispensable.
Nicolas Mariotte. Mais c'est mon cousin.
Laurent Mariotte, Nicolas Caro. Il nous écoute.
J'ai fait un crossover. Qui veut commencer?
Laurent.
Allez, Laurent Mariotte. Mais... Laurent Mariotte, votre indispensable ce matin.
Eh ben, je vais vous parler d'une recette qui a son championnat du monde, qui a son association de sauvegarde. On va parler de l'œuf mayonnaise, qui est bien réconfortant par ces temps.
Nicolas Caro, c'est la même question.
Je vais vous parler d'un couple mythique. Blake et Mortimer, qui fête ses 75 ans.
Ah oui.
Dans un instant, c'est un couple qui peut devenir mythique, Louis Chédid, qui s'est associé à Yvan Cassar. Ils ont fait un album ensemble, s'appelle En noir et blanche. Ce sont les très beaux titres de Louis Chédid, mais seulement en piano-voix. On écoute tout de suite le morceau La Belle sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Louis Chédid.
Bonjour.
Chanteur, compositeur, auteur, c'est vous qui avez écrit, j'en cite qu'une, la chanson Banal Song pour Souchon, mais on vous connaît surtout pour vos chansons, vos titres à vous, ainsi soit-il, T'as beau pas être beau ou La Belle qu'on vient d'entendre, ou encore Le Soldat Rose. Yvan Cassar, bonjour.
Bonjour Philippe.
Compositeur, chef d'orchestre, directeur artistique, vous venez du classique, vous avez travaillé avec Nathalie Dessay, mais aussi Roberto Alagna, là c'est du classique, mais aussi Mylène Farmer, Jean-Jacques Goldman, Charles Aznavour, Céline Dion, Florent Pagny, sacré liste. L'avant-dernière collaboration c'était avec Johnny Hallyday, et la dernière c'est Louis Chédid. Et votre actualité commune, c'est cet album en noir et blanche, je devrais dire en noir et blanche, parce que c'est au pluriel, il y a beaucoup de notes, il y a beaucoup de noir, il y a beaucoup de blanches. Duo inédit de grands standards de Louis Chédid, en version piano-voix, on vient d'entendre La Belle. Le point de départ de l'album, c'est en fait une collection, c'est ça? C'est un
exactement,
exercice de style exactement, proposé par le patron de votre label,
exactement,
Louis Chédid.
Il s'appelle Kenny Getz et il a toujours voulu faire, enfin depuis des années, il voulait faire cette collection de piano-voix avec des artistes, etc. Et il a commencé avec Arnaud. Il a fait une...
Arnaud le Belge.
Arnaud le Belge, ouais. Oui. Et Nicoletta aussi, je crois qu'elle l'a fait. Et puis, il est venu l'été dernier me voir et il m'a demandé si j'étais d'accord pour le faire. Et j'ai dit oui, si c'est avec Yvan Cassar.
Parce sympa, que... non,
ouais. Non? Vous non, êtes non, des vieux potes? Vous aviez déjà travaillé ensemble ou pas?
Oui, on avait travaillé sur un projet comme ça qui n'est pas encore abouti, mais qui le sera un jour. Et donc, on s'était bien entendu. Et puis, on l'a sorti. Et puis, il y a eu aussi... une émission de télé, La Nuit de la Déprime.
De Raphaël Mézrahi.
De Raphaël,
ah, c'est
ouais,
extraordinaire. La Nuit de la Déprime, je raconte, il a choisi que les choses les plus déprimantes.
Exactement.
Ces gens.
Et donc, on a chanté une chanson assez déprimante, voilà, de moi qui s'appelle Les absents ont toujours tort, qui est dans le 10 d'ailleurs.
Oui, elle est dans le 10.
Et donc, Yvan m'a accompagné sur ce. Et c'est vrai qu'on a senti une espèce de fusion comme ça et de sympathie musicale. En faisant cette chanson-là, et voilà, et quelques mois plus tard, Kenny Getz m'a proposé le projet, donc j'ai dit Yvan.
J'ai
voilà,
dit d'accord. Vous étiez, Yvan Cassar, familier de l'univers de Louis Chédid?
Bah, je connaissais évidemment toutes les grandes chansons, et puis comme j'aime beaucoup comme il chante, je m'étais intéressé avant qu'on travaille ensemble, oui, je le connaissais.
À la base, c'est composé à la guitare? Vous composez? Alors, pas au piano? Parce que je voudrais savoir comment Cassar a travaillé.
Oui, voilà.
Quand c'est composé à la guitare, vous avez fait comment? Vous n'avez pas fait le picking à la guitare en le rejouant?
Franchement, c'est ça qui est bien avec la musique, il n'y a pas de règles. Et si on dit qu'il y a des règles, c'est faux. Donc des fois, j'ai été très respectueux parce que je trouvais que ça marchait au piano. Par exemple, tout ce qu'on veut dans la vie, l'arpège est assez proche du picking de guitare. Et puis il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons où Louis fait des grooves à la guitare, donc ça, il a fallu trouver des solutions, et c'est là que tous mes petits pianos m'ont aidé à justement trouver des grooves un peu particuliers.
Alors Louis Chédid, vous voyez comme un musicien un peu à l'ancienne, qui aime les sons analogiques, pas le digital. Or, j'avais découvert que vous aviez composé Ainsi soit-il en cassant votre tirelire à l'époque.
Exactement.
Vous avez acheté une boîte à rythme, la Lindrum, que tout le monde connaît. Oui. C'est trop le son années 80, ça faisait fureur, c'est bien ça?
Oui, complètement.
Alors on a fait un mix avec Jérémy Hébert, notre réalisateur, un mix d'Ainsi soit-il, la version originale et la version piano-voix.
Autre scène, chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui l'était.
Tu es là, non, ainsi soit-il. Yeah, yeah, tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière. Ouais, toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur, mais Personne n'a jamais arrêté le projecteur. Puis là, non, ainsi soit-il.
Et on entend une petite percussion, on va en parler, me dites pas tout parce que j'ai une question là-dessus, je me dis mais comment ils ont fait ça? Vous avez tout rechanté, vous avez tout refait dans les mêmes tonalités?
Alors ça dépend, il y a certaines, par exemple ainsi soit-il, je crois qu'on l'a descendu d'un demi-ton, je crois.
Franchement ça dépendait des ambiances, il y a des choses où on a, c'est plus haut ou plus bas, ou ouais. Carrément par exemple God Save the Swing qui est une tierce... plus basse, parce que alors qu'on pouvait le faire, mais on se trouvait que les tonalités étaient plus magiques, ou l'intention de la voix, comme s'il faut aussi faire avec le matériau sonore, le piano, on voulait une intimité, donc du coup, des fois, c'est aussi pour ça que des fois il a descendu, et du coup, ça donne le velours.
Oui, et puis l'amplitude de la voix. Voilà. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'est vraiment, on a travaillé à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on était chacun dans une cabine, lui avec ses quatre pianos, moi dans une petite cabine de voix, etc. On se voyait.
Et vous chantiez en live.
Et, ouais,
ce que j'explique pour les gens qui ne savent pas, on enregistre le piano et après le chanteur vient.
Exactement.
Il pose sa voix dessus, là non.
Il n'y a pas du tout d'overdub, on a enregistré tout, on faisait 4-5 prises et puis on écoutait. Et en général, sur les 4-5 prises, il y avait une qui
se détachait. Parce que c'est une histoire d'ambiance aussi, quoi. Ouais. À un moment donné, une manière de jouer avec une manière de chanter, c'est ça la magie, hein, franchement.
On joue pas toujours pareil. C'est une question de débutant. Je pensais qu'on chantait pas toujours pareil, mais que vous étiez un tel pro que vous jouiez toujours pareil au millimètre.
Je joue pareil. Je peux jouer à peu près les mêmes notes, mais presque même, je dirais même précisément. Mais, mais par contre, la beauté de cet exercice, c'est là que ça rejoint un peu la musique classique, c'est que on évolue. C'est le temps. Il va un peu ralentir. Je vais ralentir une note. On va mettre une suspension qui n'était pas prévue, un peu plus fort, une réaction. C'est l'interaction de la musique live. Et ça, les absents ou des balades, surtout, c'est évidemment frappant sur les balades.
Mais la voix, c'est pareil, tu vois, parce que
la voix, je le savais.
La voix,
je sais qu'on ne change jamais deux fois la même façon. Mais je pensais qu'un type comme Cassar, c'était comme un pilote de Formule 1qui passait tout le temps au même endroit, au millimètre près.
Alors, il fait souvent la même chose, mais c'est l'interprétation. C'est d'ailleurs. Quand on joue Debussy ou Chopin, c'est la même partition, si tu veux, mais chaque pianiste l'interprète différemment.
Et je vais poser une question, mais je vais en prendre une. Pas de clic.
Non.
Pas de clic, j'en étais sûr. Culture Média continue. On va parler BD, on va parler gastronomie. On est avec Yvan Cassar et Louis Chédid en Noirs et Blanches. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Avec Louis Chédid et Yvan Cassar en Noirs et Blanches. C'est leur premier album ensemble, piano-voix. On va parler de littérature maintenant avec vous, Nicolas Carreau.
Oui.
Alors, littérature ou pas, c'est un livre culte. Habituellement, on parle de littérature, mais là, qui arrive dans votre playlist? Blake et Mortimer, une bande dessinée.
Bah oui, mais là, en matière de culte, ça s'impose. Les aventures de Blake et Mortimer fêtent leurs 75 ans. Les personnages ont été créés par Edgar P. Jacobs, bien sûr, en 1947. Et depuis, ils ont été repris, depuis la mort d'Edgar P. Jacobs, ils ont été repris par différents auteurs et dessinateurs. Le grand, l'immense Jean Van Hamme, par exemple, l'inventeur de 13 et l'Argo Winch, s'en était emparé. Et cette fois, ils s'y sont mis à trois. José-Louis Boquet, Jean-Luc Fromental et Antoine Aubin pour les dessins. Et ce nouvel album s'appelle 8 heures à Berlin.
José-Louis Boquet et Jean-Luc Fromental, c'est les scénaristes. Donc, 8 heures à Berlin, ça se passe pendant la guerre froide?
Comme souvent avec eux. 8 heures, ça correspond au temps qu'a passé le président Kennedy à Berlin en 1963, en juin 63. Vous savez, Ich bin ein Berliner. C'est à ce moment-là.
Ah bon ?
Mais pour l'instant, à la première planche, nous sommes dans l'Oural avec une scientifique russe, une archéologue, Olga Mandelstam. Elle est en train de faire des fouilles dans ce qui pourrait bien être la mythique cité d'Arkhaïm. Mais au cours des fouilles, elle tombe sur des caisses en bois. Et dedans, 7 corps et les visages des 7 hommes ont été retirés. Elle appelle un vieil ami scientifique qui n'a pas froid aux yeux, qui s'appelle...
Mortimer.
Eh bien, bien sûr, le professeur Mortimer, qui réplique et commence à enquêter avec Olga. Pendant ce temps, le capitaine Blake, lui c'est le blond à la fine moustache, se rend à Genève pour une réunion des services secrets britanniques, allemands, français et américains. Il s'agit de préparer au mieux la visite à Berlin du président Kennedy. Berlin, où on se rend tout de suite et quasiment en même temps, pour assister à l'évasion d'un homme qui tente de passer au-dessus du mur.
Dis donc, il se passe des choses.
Bah, comme d'habitude, ouais. Comme toujours dans Blake et Mortimer, ça part dans tous les sens. Il y a un rebondissement par page. Comme toujours aussi, nos héros sont placés dans le décor de l'histoire, la vraie. Comme toujours, l'ignoble colonel Ulrich va mettre son grain de sel et au dénouement, toutes les histoires se rassemblent. Bref, c'est ça ce qui est génial avec Blake et Mortimer. Ils ne vieillissent pas. On retrouve nos repères tout en changeant complètement d'ambiance et d'intrigue. C'est un régal. Regardez, Louis Chédid, depuis tout à l'heure, me regarde avec une nostalgie dans les yeux.
Je me
souviens qu'il les lisait, tous les albums de Blake et Mortimer. Ouais,
c'est vrai
Blake et Mortimer, c'est comme Balzac ou Flaubert pour moi.
On est bien d'accord.
C'est du classique.
Vous allez l'offrir, vous en avez qu'un?
Bah, non.
Je vais l'offrir, je vais m'en procurer.
Bah non, mais non, mais vous l'avez lu ?
Bien sûr. Je peux vous raconter la fin.
Alors vous pouvez me l'offrir. Vous pouvez me l'offrir.
Non, je vous dis ça. En fait, je vais voir les auteurs tout à l'heure. J'en ai besoin. Je suis désolé.
Ah oui, bien sûr.
La bonne excuse. La bonne excuse. L'éditeur, c'est qui ?
C'est Blake et Mortimer, qui est une sorte de filiale de Dargaud.
Ah, ils ont créé cette maison d'édition, une petite filiale. Vous avez fait exprès de faire une contrepétrie ou pas du tout?
Pourquoi? C'était quoi?
Pas parce que je l'ai entendu. Vous l'avez entendu, la contrepétrie? Je vous la dirai après. Merci beaucoup, Nicolas Caro. On continue.
Non, attendez, il faut que je vous dise un mot du Goncourt des lycéens.
Ah,
aussi,
mais oui, c'est vrai. Alors, le Goncourt des lycéens, très important.
Par la FNAC, le ministère de l'Éducation, avec la bénédiction de l'Académie Goncourt. Depuis octobre, les lycéens concernés partout en France ont lu les 15 romans sélectionnés pour le Goncourt. Ils ont rencontré les auteurs. Ensuite, ils ont envoyé des délégués qui se sont réunis hier à Rennes. Et le lauréat, c'est Sabil Goussoub pour Beyrouth sur Seine chez Stock. Il y parle de son enfance, de ses parents et du Liban. Il a gagné contre Nathan Devers pour Les liens artificiels chez Albin Michel. Ça rigole pas, le prix Goncourt des lycéens. En général, c'est la promesse de centaines de milliers de ventes.
Ouais, grosse vente. Et je crois qu'Europe 1 est partenaire. Vous avez trouvé la contrepétrie ou pas?
Non.
Je vous laisse réfléchir à ça. Il a dit, dans les fouilles, elle tombe sur des caisses en bois. Culture Média continue. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même.
Vous avez reconnu la voix, la musique de Louis Chédid. Et vous avez peut-être pas reconnu, mais c'est lui, le piano d'Yvan Cassar en noirs et blancs. Et ce nouvel album, leur premier album ensemble qui vient de sortir. Exercice de style très réussi. Sur les notes de pochette, il y a écrit « Voix, Louis Chédid ». Et pour vous, Yvan Cassar, il écrit tous les pianos, arrangements et réalisations. Tous les pianos, parce qu'il n'y en avait pas moins de 4.
Oui, parce que j'avais beaucoup peur au début de cette idée de piano-voix et de me dire on va ennuyer les gens au bout de 4-5 morceaux, parce qu'un piano, c'est un piano. Et donc, pour pallier à ça, et aussi à mon caractère finalement d'arrangeur et de quand même le son, je me suis dit que j'ai toujours pensé qu'un piano différent a un parfum différent. Donc du coup, grâce à des pianos différents, des pianos droits, vieux, on a un chorus, on a une nostalgie qu'on n'a pas avec un queue de concert.
Toujours sur les notes de pochette, j'ai lu ceci et là j'étais vraiment totalement perplexe. Conseiller artistique et piano préparé, Éric Chevalier, que sont des pianos préparés? Est-ce que ça veut dire qu'habituellement les pianos ne sont pas préparés? On les pose là et chacun se débrouille.
Non, mais
c'est quoi un piano préparé?
L'historique
on dirait un rôti de veau avant de le mettre au four.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est
en fait, le piano préparé, c'est historiquement depuis le début du XXe siècle avec beaucoup de gens comme Stockhausen. C'est des musiciens de musique classique contemporaine qui ont inventé ça. C'est-à-dire on met des choses dedans et puis du coup ça transforme le son. Si on met son doigt ou un peu d'aluminium sur une corde, et bah, du coup ça va zinguer. Si on met une balle de ping-pong dessus, ça fait boum. Et du coup, le rapport va faire qu'on va avoir un espèce de son de percussion. On peut taper sur une boîte, sur le capot. Avec une maillotche, on peut avoir un son de feutre. Enfin, c'est trouver, multiplier les ambiances et les sons avec un piano, se servir juste de la caisse de résonance et des cordes du piano.
Et je ne pensais pas qu'un jour, on pourrait salarier quelqu'un pour ça. Il a vraiment parfois désaccordé les pianos.
Ben oui, on a.
Parce
oui,
que maintenant, on paye les gens pour les accorder.
C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de mettre. On a même mis des pinces à linge, où j'ai joué avec une lime à ongles, j'ai fait un petit triangle pour le tcha-tcha. C'est ça qui est amusant parce que.
Traîner le marteau.
Ce qui était drôle dans ce projet, c'est l'imposer. L'imposer, c'est piano, piano, piano. Donc, comment faire offrir des coulures différentes, des instruments différents et les transformer pour qu'on se dise ah bah c'est super, il y a du rythme, il y a du groove, enfin voilà.
J'ai une partie de la réponse à la question que j'allais vous poser. Dans certains titres, il y a des percussions et je me suis dit tiens, est-ce que c'est une boîte rythmique? Est-ce que c'est Louis Chédid qui a ressorti sa vieille Lindrum des années 80?
Non.
Donc les percussions, elles sont faites avec des pianos.
Elles sont faites avec des pianos.
Vous qui les faites ou c'est encore joué en live? Comment ça a été fait?
Non, ça je l'ai fait. Il y a plein de fois, je les ai faites. Et puis on travaille le son. C'est de la production parce qu'on est aussi on est de notre temps. C'est pas parce qu'on fait un album piano voix qu'il faut se retrouver en 1850 et puis de jouer juste comme ça, avec un gramophone. Donc du coup on sample. C'est-à-dire que du coup j'essaye de temps là, je tape. Par exemple le tcha-tcha c'est comme une cloche, c'est pas une vraie cloche.
On l'écoute et on en parle. Le tcha-tcha de l'insécurité. Écoutez.
On met des sirènes dans nos voitures des chaînes, à nos serrures des alarmes, cachées sous nos tentures des explosifs, dans nos boîtes à chaussures, toute cette hystérie, tout ce stress, ça fait marcher le petit commerce. Il y en a qui louent des chiens loups, cachette des revolvers qui voient des gangsters partout. Y en a qui se prennent pour John Wayne, qui dégaine plus vite que dans les westerns, à trop regarder la télévision. Y en a que ça rend de plus en plus con, c'est le cha-cha de l'insécurité, le cha-cha-cha, la panique organisée, cha-cha. Cha-cha morose, cha-cha, cha-cha névrose.
Tout ça, c'est du piano.
Celui-là, c'est typiquement un orchestre de piano. Hein. Le grave, c'est un piano à queue. Au milieu, il y a du piano qui fait un petit groove où je mute les cordes avec ma main et ça fait tout, tout, tout comme ça pour avoir cette espèce de séquence. Il y a la cloche, j'ai fait un petit triangle avec une petite lime que j'ai posée sur la corde. Une balle de ping-pong qui fait poc. Les deux et les quatre, et un piano droit qui fait toutes les riffs, parce que je voulais qu'on soit quand même un peu en Amérique, qu'on arrive dans un bar et qu'il y ait ce piano droit un peu abandonné qui fasse la chanson. Donc là, c'est un
petit images et les ambiances, quoi. Voilà. Beaucoup de travail là-dessus, et c'est un orfèvre là-dessus.
Louis Chédid, c'est vrai qu'Yvan Cassar peut mettre, je vous cite, une journée entière à régler un micro.
Ça y est, ça recommence.
À régler ça, oui.
Pourquoi ça recommence? On vous l'a fait parce que c'est même pire que ça. Pourquoi c'est pire que ça?
Mais non, parce que ce qu'il y a très... Alors, il va vraiment au bout de son envie et du résultat, c'est-à-dire qu'en plus, il y a son, je sais pas comment on peut appeler, son bras droit qui est avec lui et qui fait des retours dans la cabine, qui écoute, etc. Donc, ils sont très en symbiose tous les deux. Et c'est vrai que tant qu'il n'a pas le son qu'il veut, il continue. À un moment donné, il y avait sur un piano à queue 25 micros différents. Et c'est vrai que quand on est un peu néophyte comme moi au début, si vous voulez, on panique, on se dit oh là là, où est-ce qu'on va? Mais en fait, finalement, le lendemain, on arrive et on écoute effectivement le résultat. Et on se dit, il a eu raison, quoi. Vraiment.
Le piano, c'est ce qu'il y a de plus difficile à enregistrer.
Ouais, c'est parce que
ça tient les sons et il y a beaucoup de transitoires. C'est tous ces sons qui attaquent et rendent. On a envie d'une proximité, donc on a envie de mettre le micro dans le piano pour que les gens dans les enceintes l'entendent bien. Mais du coup, ça devient dur, agressif, petit. Enfin, c'est très compliqué. C'est un vrai test pour tester un ingénieur du son. Vous lui dites bonjour, je voudrais enregistrer un piano. Là, vous savez tout de suite s'il est compétent ou pas.
C'est très
difficile. Donc il faut accepter la patience pour pas être banal. Et là, on fait un disque de piano. Il n'est pas question de faire quelque chose de juste acceptable. Il faut avoir la personnalité sur chaque instrument. Donc c'est long.
Et il y a même des sons qu'on va vous faire entendre dans un instant qui sont pas banals, je dirais même, ils sont pas banaux. Mais d'abord, on va parler de gastronomie. Il y a Laurent Mariotte qui arrive, Louis Chédid, Yvan Cassar, ils sont avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Louis Chédid, en compagnie d'Yvan Cassar, ils sont heureux parce qu'on va parler de piano, on va parler de piano, de cuisine avec vous, Laurent Mariotte.
Exactement.
Cet enchaînement.
On aime bien.
Je me garde depuis le mois d'août cet enchaînement. Vous nous mettez, je viens de l'improviser, vous nous mettez au parfum d'un classique des bistrots. Ça me fait tellement plaisir qu'on parle de ce sujet. Aujourd'hui, un indispensable de la cuisine française, l'œuf mayonnaise, alias œuf mayo.
Exactement. Un œuf dur, encore un peu crémeux.
PME, une mayonnaise bien à pente par-dessus. C'est vrai que c'est un grand classique français en jaune et blanc. C'est un indispensable des bistrots parisiens. Vous aimez ça, Louis Chédid?
Ah, mais oui. Et je vais vous dire même, je crois qu'un restaurant peut se mesurer à 109 mayonnaise.
Et comme une charcuterie peut se mesurer à son fromage de tête.
Ouais. Ouais, dans notre quartier, la dernière fois qu'on a mangé ensemble dans notre quartier, à la cantine de Troquet, qu'on aime beaucoup, on s'est fait ça, on s'est partagé des œufs mayonnaise.
Il y a un côté anti-déprime, et je crois d'ailleurs que votre union est un peu née aussi à la nuit la déprime de Raphaël Mézeray.
C'est ça, exactement.
C'est anti-déprime l'œuf mayonnaise.
Alors ça date de quand? Quand est-ce que ça a été inventé?
Alors la première trace vraiment de savoir quand ça date, c'est un peu compliqué, mais on retrouve la première mention de l'œuf mayonnaise dans un livre en 1906, le livre d'un monsieur qui s'appelle Baute, c'était le chef Baute. Son livre, c'est un classique, hein. Les œufs avec mille manières de les préparer et de les servir. Mmh. Et dans la recette 558, l'œuf mayonnaise apparaît. Et écoutez bien la recette de l'époque, hein. Les œufs sont coupés en tranches de 4, posés sur un lit de laitue, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, recouverts d'une légère couche de mayonnaise, ça on connaît bien. Mais à l'époque, ils étaient quadrillés d'anchois, de capre, décoré d'olive avec de fines lames de betterave. Donc vous voyez, c'était vraiment autre chose. Il y avait un petit peu d'acidité qui venait titiller le bon gras de l'œuf mayonnaise. Et en 1912, cette recette, elle est apparue dans les écoles de ménagères pour les filles qui apprenaient à faire la cuisine. Et c'est devenu un indispensable, un classique de la cuisine de ménage, comme on dit.
Et plus d'un siècle plus tard, ils sont toujours à la carte des bistrots.
Et oui, le temps passe et les œufs durs, comme disait Daniel Prévost. C'est pas de moi, c'est Daniel Prévost. Et c'est d'ailleurs le slogan de la Somme. La Somme, c'est l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise qui se réunit tous les ans, qui a été inventée par Claude Lebet.
Je me rappelle. C'est lui qui a fait le premier guide des bistrots de Paris, Claude
Exactement, Lebet. Claude Lebet, un grand critique gastronomique qui a inventé cette association de sauvegarde, et c'est d'ailleurs le slogan de l'association de sauvegarde, le temps passe et les œufs durs, et tous
est-ce
les ans...
Est-ce que l'œuf mayonnaise a besoin de sauvegarder, je crois que...
Ah bah oui, parce qu'il a même un championnat du monde maintenant.
Bien sûr.
Il y a un concours tous
c'est
les ans.
C'est comme la baguette, sinon ça se perd.
Depuis 2018, chaque année, voilà.
Moi je regarde ceux qui sont en haut du panier.
Bien sûr, je crois que c'est le Figaroscope qui fait chaque semaine le meilleur
burger, le meilleur falafel,
exactement, et surtout le meilleur œuf mayo.
Le meilleur œuf mayonnaise.
Alors comment ça juge un œuf mayo?
Avec du goût et avec une charte. Alors la charte, je vous la donne, l'œuf doit être de gros calibre, cuit à cœur mais sans excès, de façon à ce que le jaune, sans être coulant, conserve du fondant. La mayonnaise doit être maison, bien sûr. Évidemment. Nappante, souple, et ils sont notés aussi sur le dressage, la cuisson de l'œuf, la qualité de la mayonnaise et l'accompagnement, bien entendu. Ouais.
On est à peu près tous d'accord. Pas de mayo en tube.
Non, surtout pas.
Le grand gagnant cette année, il peut quitter le studio si je lui dis ça.
Je pars. C'est la Grande Brasserie, le grand gagnant cette année, la Grande Brasserie à Bastille. Bravo à Grégoire Simon, le chef cuisinier. Regardez, vous la porte.
Mais je ne savais même pas.
Mais c'est jour de
on vous l'apporte. Merci vraiment à la Grande Brasserie à Bastille qui vous a fait cet œuf mayo. Et regardez, le chef Grégoire Simon a eu la bonne idée, je pense que c'est pour ça qu'il a gagné cette année, de mettre un autre classique de la cuisine de bistrot, un petit céleri rémoulade.
Moi, j'adore le céleri rémoulade, mais c'est dingo.
La rémoulade, c'est une mayonnaise très moutardée. Alors là, il a pas mis... Si, il en a un. Il arrive, le sien. La mayonnaise, elle n'est pas moutardée. Là, pour le coup, c'est juste de la moutarde. C'est pas une mayonnaise, je veux dire, dans le céleri rémoulade. C'est juste une sauce avec un jaune d'œuf cuit, une crème montée et de la moutarde. Voilà. Et la mayonnaise, elle est juste sur l'œuf.
Et faut y aller, faut goûter les garçons.
Oui,
moi, le mien, il est un peu tombé. Il est un peu dans le service, il est un peu tombé. Il s'est pris la porte à battant de la cuisine.
C'est la faute aux pavés de Paris qui sont pas bien chaussés.
C'est pas grave.
J'ai pas de fourchette, les gars.
Ah mince. Ah non. Une fourchette tout de suite pour Louis Chédid.
Alors tiens, j'ai pas touché Louis. Je préfère que ce soit
Louis.
Vas-y.
Non, mais je veux que ce soit toi.
Il faut goûter.
C'est vous l'invité.
C'est vous les critiques, parce que c'est quelque chose que vous aimez.
Franchement, il est très bon parce que l'œuf est cuit parfaitement et la mayonnaise, elle est juste un tout petit peu relevée. Un petit peu d'acidité, du coup, c'est pas écœurant. Comme ça, on peut en manger encore plus.
Bien vu, parce que la mayonnaise, elle est serrée là, avec du vinaigre de cidre dans cette recette.
Pendant que Louis Chédid goûte son œuf mayo, je voulais dire qu'Europe 1 se mobilise pour nos restos. Laurent, vous avez lancé sur l'antenne un appel intitulé « Des bras pour nos restos ». C'était samedi dernier dans votre émission, racontez.
Eh bien, vous le connaissez, hein, le problème, c'est la grande pénurie de personnes personnel dans la restauration. Ah ouais. On recherche des plongeurs, des commis, des chefs cuisiniers, des sommeliers. Tous les corps de métier manquent dans la restauration. Plus de 300 000 postes manquent. Il y a une énorme pénurie de personnel. Donc sur Europe1.fr, on a mis en place la belle mobilisation des bras pour nos restos. Il y a une carte interactive et on fait tout simplement le lien entre l'offre et la demande. Donc les chefs, les restaurateurs sont en train de mettre leurs offres avec les salaires, avec les postes. Il y a de nombreux chefs cuisiniers maintenant qui se mobilisent même pour héberger le personnel, parce que ça, c'est un vrai problème. Ah ouais. De trouver des logements qui n'explosent pas les coûts dans des régions très touristiques. Donc voilà, vous pouvez mettre vos offres d'emploi et vos recherches, vous qui recherchez du travail dans ce beau métier qu'est la restauration, sur Europe1.fr.
On retrouve ça sur Europe1.fr, toutes les adresses. On vous retrouve demain à la table des bons vivants. C'est votre casting. Alors, le tour de table, ce sera qui?
Alors, des deux tontons flingueurs de l'assiette qui font partie de notre patrimoine gourmand, Michel Oliver. Vous savez, le grand Michel Oliver, qui a écrit La cuisine est un jeu d'enfant, sera avec nous. Jean-Luc Petit-Renaud. Et puis Jonathan Lambert rentre de spectacle pour être avec nous et partager un beau plat de poisson.
Merci beaucoup, Laurent Mariotte. Merci pour cette adresse à Bastille. Dans un instant, Louis Chédid, Yvan Cassard, on termine l'assiette. C'est la dernière ligne droite de Culture Média. Tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner quand on les aime.
C'est la voix de Louis Chédid, c'est le piano d'Yvan Cassard en Noirs et Blanches, c'est le nouvel album qui sort. Je parlais des sons de piano que vous avez une manière très particulière, Yvan Cassard, de préparer. Et je dois dire qu'il y avait un son de piano que je ne connaissais pas, j'avais jamais entendu ce nom-là, c'est dans Anne, ma sœur Anne. Vous l'avez obtenu comment ?
La percussion qui est
tout le son de piano. Alors c'est quoi ? On l'écoute d'abord et vous nous racontez ensuite la recette. C'est comme avec Laurent Mariotte, comment on fait l'œuf maillot, comment Yvan Cassard fait ses sons de piano. On écoute.
Anne, ma sœur Anne, si je te disais ce que je vois venir, Anne, ma sœur Anne, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard. Anne, ma sœur Anne, en écrivant ton journal du fond de ton placard, Anne, ma sœur Anne, c'est qu'on n'oublierait jamais mes mauvaises mémoires. Elle ressort de sa tanière, la nazie nostalgie.
Ce contretemps, j'avais jamais entendu un son de piano comme ça.
Parce que c'est un son de
c'est
piano.
Un synthé.
Pareil. Ce morceau, c'est typiquement cette chanson, là, l'exemple d'utilisation de plusieurs pianos en même temps, découper un peu le travail. Il y a le bassiste qui fait avec un espèce de son très très sec sur le piano à queue. Au milieu, c'est un piano droit sur lequel j'ai mis des feutres, du coton. Et donc, du coup, ça fait. Comme ça, et du coup, quand je joue les contretemps, on a un son plus petit parce que c'est un piano droit, plus intime, et en plus, le feutre donne cette attaque, et puis ce son très, du coup, cotonneux. Et par contre, la mélodie, elle est jouée par un grand piano de concert, et du coup, on a ces mélanges de sonorités qui font qu'on a l'impression d'entendre un orchestre, en fait. Encore une fois, parce que là, je suis assez proche du groove de la chanson, mais il fallait trouver un parfum. Donc, moi, j'ai pas de synthétiseur, donc j'utilise mes pianos.
Évidemment, j'ironisais quand je disais que c'était un synthé. Non, sinon, quel intérêt d'être avec vous. Vous allez donner une série de concerts. La tournée a déjà démarré. À quel dispositif ? Il y a 4 pianos sur scène.
Ouais. Oui, il ne fallait pas voler les gens et dire « vous avez écouté l'album » et puis après, faut pas être déceptif quand on fait un concert. Donc c'est vrai que on s'est embarqué dans un gros bateau parce que c'est compliqué à gérer, à emmener tous les jours. Mais j'ai 2 pianos à queue, un très gros et un plus petit, justement pour ces sons un petit peu plus intimes. Et 2 pianos droits avec des caractères très, très, très opposés. Un qui est très brillant, qui sert aux chansons un peu plus swing. Et puis un autre qui est plus tout en douceur.
Et vous avez osé faire comme les groupes de rock progressif dans les années 70, genre Rick Wakeman, qui jouait sur un clavier et puis sur un autre, chacun sur une main.
Ça, il le fait.
Alors,
ça, mais...
voilà, je fais mieux que ça.
Mais on
ne
va pas spoiler.
Non, on ne va pas spoiler, mais en tout cas, il se passe des choses.
Et alors, Louis Chédid, vous êtes aussi au piano.
Ouais.
C'est quoi votre niveau au piano?
Et là, tout d'un coup, le niveau...
non, blague à part, j'ai appris... C'est pas votre instrument de base, le piano.
Non, mais j'aime bien faire du... J'aime bien faire du piano, mais pour trouver des mélodies ou des choses comme ça. Mais disons que je ne suis pas un virtuose du tout, loin de là.
J'ai lu Louis Chédid.
J'ai pris des cours.
Ouais, cet été ?
Oui, j'ai pris des cours cet été avec mon prof de piano dans le sud. Là, j'ai un copain qui est prof de piano, qui a une école de musique, etc., dont je suis le parrain d'ailleurs. Et il s'appelle Marc Gonzalez. Je lui rends hommage parce que ce n'était pas évident.
On le remercie. Ah,
voilà. Et les cours, vous démarriez de quel niveau, Vous savez lire la musique, par exemple?
Ah non. Moi, je suis autodidacte complet. Je ne sais pas lire la musique. Je connais les accords maintenant à la guitare et des choses comme ça, mais je n'ai jamais appris vraiment. Mais en fait, j'ai une oreille et donc je sens les harmonies, les choses comme ça. Mais après, si tu veux, c'est une question de doigts et d'arriver à les mettre au bon endroit.
J'adore, c'est le principe
du piano. Et c'est vrai que d'ailleurs, Yvan me fait la guerre parce que moi, j'ai tendance à passer d'un octave à un autre pas du tout avoir le doigté qu'il faut. Quoi.
Il ne se simplifie pas la vie. Il garde la main et il déplace la main au lieu de changer les doigts, ce qui fait que c'est plus
simple. Mais comme j'ai toujours appris comme ça, si tu veux, je continue.
Sans spoiler, parfois vous êtes chacun sur un piano
concert.
Absolument.
Ouais, absolument.
Alors j'ai les dates, vous serez à Caluire et Cuire, c'est dans la banlieue de Lyon le 29 novembre, à Boulogne le 30, Châtel-Guyon le 8 décembre, au Puy-en-Velay le 9 et à Enghien-les-Bains le 11 décembre. Vos projets ensuite, ce sera quoi?
Alors, la chose dont tu n'as pas parlé et qui est très importante, c'est aussi la scène musicale. On est à la scène musicale le 30 novembre.
Ah oui!
La scène musicale,
très important.
Qui est un endroit absolument magnifique.
On joue dans l'auditorium, qui était plus un endroit de musique classique, mais justement ce projet qui est un peu atypique et qui est un peu entre deux mondes, il nous semblait que c'était le plus bel écrin pour faire ça.
Vous avez tellement de projets, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à faire tout tenir en une minute et demie, Louis Chédid. Il y a une comédie musicale qui revient.
Le Soldat Rose, on remonte le Soldat Rose en octobre 2023 au Grand Rex. On va faire 20 concerts là-bas et puis une tournée dans toute la France. Et ça, c'est assez excitant. J'ai commencé à faire, avec le metteur en scène et tout ça, le casting il y a quelques jours là. Et je suis très content du résultat. Il y a plein de chanteurs, acteurs. Une jeune génération qui est vraiment géniale.
Parce qu'il y avait un casting extrêmement impressionnant. Ouais. Et puis aussi un nouvel album.
Alors, je travaille avec un nouvel album. J'ai demandé à Yvan ce qu'il pensait de certaines chansons et il m'a remonté le moral parce que tu sais, quand tu fais des nouvelles chansons, tu dis toujours si c'est pas les dernières que tu feras et que c'est machin. Et si elles sont à la hauteur, il m'a dit des trucs plutôt gentils et comme on se connaît suffisamment maintenant et qu'il me dit la vérité.
Pardon, je vous interromps parce que j'avais qu'une trente pour terminer. Et Yvan,
moi, je finis. On est ensemble pendant plusieurs mois et on se régale. Et après, j'attaque ma tournée avec mon orchestre autour du spectacle de Johnny. Un orchestre, des chœurs, 200 mètres carrés d'écran vidéo. Enfin, c'est la grosse fête.
Merci beaucoup, Louis Chédid, Yvan Cassard, en noirs et blanches. Album disponible partout, c'est chez Piass. Play It Again, Sam. C'est important parce que c'est le patron qui a eu l'idée de cet album pour vous deux. Exactement. Nous, on se retrouve lundi à 9h pour Culture Média. On sera avec Raphaël Antoven, écrivain, essayiste, philosophe. On parle de cette nouvelle revue Franc-Tireur qui fête, c'est un an, qui célèbre, c'est un an. Et puis, il y a un numéro hors série au sujet des lanceurs d'alerte. Et puis, une série documentaire sur France 5 qui montre un métier peu connu. Ils ont fait 4 épisodes, devenir ostréiculteur. Puis, le réalisateur, Christophe Honoré pour son nouveau film Le Lycéen. On sera également avec le premier rôle de ce film, le jeune Paul Kircher. Juste après le flash, Julia Vignali, Mélanie Gomez avec Bienfait pour vous. Le programme du jour est d'abord bonjour.
Bonjour Philippe. Mélanie, vous trouvez que ma voix sent bon? Une petite odeur de musc, effectivement, c'est pas mal. Pourquoi vous me posez cette question?
Parce que vous savez que l'odeur et la voix sont liées. On va en parler dans Bienfait pour vous, ça s'appelle la synesthésie.
Merci, on vous écoute et moi je vous dis à lundi, bon week-end à l'écoute d'Europe 1.